France Inter. France Inter, il est 11h04 et bonne matinée sur notre antenne. C'est maintenant l'heure de retrouver toute la bande originale. Nagui, Laïla Kader, c'est à vous.
Merci Amélie Perrier, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. C'est la bande originale.
Ah oui,
avec Lisa Delmoitier, avec Mao Di Fontaine, Amandine Lourdes, Julien Santini.
Bonjour.
Oldelaf, Dani.
Salut.
Bonjour Oldelaf, parle plus fort.
Ah ben pardon.
Ah ben voilà, Daniel Morin.
Coucou Mélodie.
Et Daniel.
Et nos invités, Salif Cissé et Denis
Podalès.
Ah ouais.
Pardon, Denis Podalès de la Comédie française.
Oui, hein,
je vais me faire engueuler par Eric Ruff, moi encore. Bienvenue tous les deux, bonjour Salif.
Bonjour, oui, bonjour.
Il n'a pas fini Eric Ruff.
Bienvenue, c'est la première fois.
Ouais, c'est la première fois.
Eh ben on est ravis.
Bienvenue.
Bah, je suis enchanté d'être là.
On est ravis, je suis tombé amoureux de...
De vous
de... Oui, et de votre personnage, de votre jeu, mais vraiment.
Merci.
Oh, Denis Podalès. Ouais, sans surprise, c'est la fin d'un couple.
Bah oui, on est sur la descente. On descend tout doucement.
C'est ça. Le pitch étant extrêmement simple, l'auteur, interprété par Denis Podalides, a envie d'être tranquille, donc il engage un imitateur stand-upper qui cherche un peu de taf, ouais, à imiter sa voix et à répondre à sa place à son portable. Justement, petit tour de table. Avez-vous un don d'imitatrice ou d'imitateur? Lisa, est-ce que tu sais imiter quelqu'un?
Non, c'est mon grand regret. Je sais imiter personne, je sais prendre aucun accent.
Ah, même pas une chanson, parce que généralement c'est Dalida, tout le monde fait un peu Dalida, quoi,
oui.
Bourré le soir.
Oui, je le fais, mais est-ce que je le fais bien?
Je sais pas, dis-le.
Non, croyez-moi. C'est une espèce de consensus.
Ah ouais, d'accord.
Mais non.
T'es pudique maintenant, d'accord, ok. Mélodie?
Là-dessus.
Oui, parce que... Ah bon.
Tu sais imiter?
Je crois que j'arrive un peu à imiter Sid de l'âge de glace.
Ah, vas-y.
Tu sais qu'il fait... il mange où, abandonné? Où est ma famille?
Si. Si,
voilà.
J'achète comme
j'ai
dirait
pas la ref,
alors, ouais. Si, pas. Sid, tu l'as pas?
Non.
Et toi Laïla?
Bah bourré Dalida.
c'est ça. Quelle fille pas bourrée ne sait pas imiter
Dalida?
Non
mais moi je fais mieux que la moyenne.
Alors on te voit.
Vas-y,
non, vas-y. Non,
elle est à
jeun.
Elle est à jeun.
Ouais,
on est vendredi Nagui.
Ah ouais. C'est toi que je vois.
Caramel.
Oh ouais.
Bien. Moi j'ai respecté.
Ouais.
Amandine.
C'est hyper sensuel.
Moi j'imite un peu les chanteuses genre Angèle ou Camélia Jordana.
Ah ouais.
Mais que à partir
les
de 15 heures, parce que là mes
cordes vocales aussi un peu.
Moi j'aurais dit Garou.
J'aurais dit Chantal
Latsou.
Julien.
Chantal Garou.
Alors moi je sais faire Christophe Maé. Et vous êtes prêts?
Ouais.
Ça fait mal,
oh wow,
ah ouais, de vivre sans toi. Ça fait mal et tu ne le vois même pas.
Ah ouais, tu l'as.
Pas mal.
Bien.
Je vais être invité à Taratata.
Non. D'où on invite des imitateurs. Oldelaf, est-ce que tu as un don d'imitateur?
Bah ouais. J'aime bien Jonas.
Ah oui.
Dis-moi.
C'est méchant.
C'est ma chanson préférée.
C'est méchant.
C'est mieux que l'original.
C'est vraiment bien. En plus, il ne veut jamais la chanter sur scène, Jonas, maintenant.
Il refuse.
Non, bah, voilà.
Il refuse. Mais,
non,
mais la dernière fois, que je précise quand même à nos invités, Michel Jonas, c'était notre invité. Oui. Oldelaf a fait ça. Il fut. J'en bats une de comme ça.
Excellent.
C'était une émission de fou.
Daniel, est-ce que tu as un don?
Je suis très bien imité, Dave.
C'est un bon moment de radio.
Je sais pas,
Denis est choqué.
Bourville.
À toi.
Bourville.
Yves Montand.
C'est bien, Nagui.
Moi,
j'ai. Non,
le beurre dans la poêle.
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 Tu vois, Amandine et Mélo l'ont jamais entendu parce que ça faisait quelques années que tu l'avais pas fait.
C'est vrai, j'en garde sous le coude.
Alors que. Bien.
Et trois nouvelles imitations dans une heure.
Écoutez, je me rends compte de mon âge, j'ai toutes les blagues du bébé de show. En fait,
ouais,
attends, moi j'avais Fanny Ardant un temps, mais.
T'avais Fanny Ardant?
Ouais, mais je vais.
Ah
faire.
Oui. Okay,
on a tous Fanny Ardant.
Salif, vous avez pris des cours pour pouvoir imiter Denis Podalides dans le film. Est-ce que vous aviez un talent d'imitateur avant de prendre des cours avec Michael Gregorio?
Bah non, je peux pas dire que j'avais un talent d'imitateur. En tout cas, j'ai une certaine facilité avec ma voix.
Ouais.
Torcher le soir avec les potes.
Torcher, moi je bois pas, donc j'ai pas eu cette chance. Voilà. J'ai pas eu cette triche incroyable. Mais j'aimerais bien essayer un jour. Ouais. Non, mais j'avais quelques facilités avec ma voix, donc ça.
Chirac.
Non, mais en tout cas, voilà, mais j'ai été bien aidé par Michael. C'est clair et net, il m'a donné tous ses secrets.
Non, mais c'est pas l'acteur que je veux. Moi, c'est le pote. Salif, qu'est-ce qu'il faisait avec ses copains pour imiter, pour faire rire ses potes à l'école ou
Qu'est-ce que je faisais? Moi, je faisais un maître Gims très vraiment allez, bizarre quoi.
On y va?
Non, mais attendez.
Salif, on s'est tous livrés. Il a fait le beurre.
Ouais, c'est vrai qu'il a fait le beurre.
Vu mes origines, vous reconnaissez.
Est-ce que vous reconnaissez là? Est-ce que vous reconnaissez? Moi je me lance.
Vas-y.
Oui, alors c'est un groupe qui avait un groupe.
Ouais, vachement bien.
Oui.
Vous en avez une autre ou pas?
Vous la maîtrisez tellement bien.
Il y en a une autre, je suis sûr.
Non, alors après, ouais. Je fais un peu aussi, j'imite les imitateurs. Écoutez, voilà.
Même syndrome. Ouais, mais non, mais c'est ça.
Chirac avec un cancer dans la gorge.
Salif, j'en ai bien tiré parce que Denis l'a sauvé.
Mais on revient à vous, Salif. On n'a pas oublié.
Gims, un peu de Gims. Elle s'appelait Belle.
Moi, j'ai mon père aussi, j'imite.
Arrêtez de le sauver.
Voilà, vous voyez la relation qu'on a.
Il est trop pote.
Alors
ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi.
Et c'est juste en plus.
Ouais.
Bah, bravo, bah, très bien.
Michel
très bien.
Sardou.
C'est un mash-up, j'ai triché.
Ce film s'appelle Le Répondeur. Il est au cinéma le 4 juin prochain. On en parle jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, voici Hold de la Femme de Salif Cissé et de Denis Podalides.
Je suis fan de Nipodalides. Je suis fan de lui depuis que j'ai un bac S. Entre Versailles et Oléron et le français, c'est beau. Attention quand même aux pulls sur les épaules et les chaussures bateau. Je suis fan de Salif Cissé. Acteur, réalisateur, il s'est même imité. Et vous avez joué dans la cour des papas à Avignon. Attends quoi ? On peut jouer ailleurs qu'au off au festival de et vous êtes là ensemble pour le répondeur. Dedans Salif, vous imitez un vieil auteur, un peu bourru, un peu sauvage et alcoolique. C'est dingue, j'ai exactement le même talent en musique.
Je suis dans le canapé, j'ai fait un roupillon. Il y a ma femme qui débarque et me pique dans le croupion. C'est l'aide à mourir.
Ah, vache, je me réveille en sueur, j'en peux plus.
C'est bien faire.
Oh le vol.
Ouais, je suis fan de Nipodalides. Un nom assez étrange, mais pas tant que ça, je confesse. Car le hasard est totalement dingo, ou presque. Une de nos animatrices est prodalidesque. Laissez-moi si c'est. Laissez-moi garder si c'est pour m'imiter. C'est parfait, laissez-moi glander.
Ouais.
Laissez-moi arrêter de me téléphoner. Ouais, je suis fan de Nipod. Et puis, est-ce que vous avez hérité de Johnny Hallyday? Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal, c'est gênant. Bienvenue avec
la bande originale.
Bravo, bravo.
Ah, c'est un meilleur. Hein.
Oh là là, il a ramé quand même.
Oh non.
Mais non, mais à trop vouloir mettre des mash-up,
mais
on se perd, on sait plus.
Bravo.
Très belle imitation de
Daniel.
De pas Dutheil.
Daniel Morin qui chante Dutheil.
Hold de Love.
Cabrel. Hold de Love qui sera le 13 juin à Lyon, Transborder, et le 14 juin au Haillan.
Parfait. Donc, ce répondeur, l'histoire de d'un auteur que vous jouez, Denis Podalydès, il en a marre d'être dérangé au téléphone.
Il en a marre d'écouter tous les soirs des messages auxquels il peine à répondre, en fait.
Il n'assume pas, et donc il va repérer dans une sorte de point-virgule, une petite scène parisienne comme ça, un stand-upper joué par Salif Cissé, imitateur, pas grand monde dans la salle dans les premières heures.
Oui.
Si, Salif, non, vous n'êtes pas d'accord?
Non, pas grand monde, non. Un peu de tristesse, un peu de frustration, frustration des débuts.
C'est ça, la tentative de se lancer. Et vous lui demandez l'impensable, c'est-à-dire de vous remplacer, de vous imiter au téléphone. Il le refuse dans un premier temps, mais après il se prend au jeu.
Oui, il y a une belle scène où j'aimais beaucoup ce que faisait Salif, où il se pose des questions. Il y a une voiture qui l'attend à la sortie du cabaret. Ouais. Pourriez-vous me voir moi? Il se demande franchement si c'est pas quelqu'un qui lui demande, qui pose un marché.
Ou un pervers,
vous lui proposez un dernier verre chez vous.
C'est ça. Exactement.
La phrase que toutes les filles ne veulent pas entendre.
Et Salif a un regard à ce moment-là qui est magnifique.
Génial.
Voilà,
génial.
Il y a tout qui passe dans ses yeux. Et en fait, non, le marché, c'est de reprendre toute sa vie via le téléphone. Parce qu'il y a aussi, cet homme est accro du téléphone. Il y a des gens de générations beaucoup plus anciennes qui sont totalement dépendants de leur téléphone, comme on est un peu tous. Et qui lui dit, je vous confie ça parce que moi, je veux écrire un livre qui est... Il y a un peu un projet un peu narcissique parce qu'il veut écrire un livre à la première personne. Oui. Ce que j'aime bien aussi, le personnage n'est pas tout à fait sympathique, cet écrivain qui a reçu le prix Goncourt, ce qui ne garantit pas d'être un immense écrivain d'ailleurs.
Qui est une forme de reconnaissance.
C'est une grande reconnaissance qui aussi garantit une certaine richesse, qui fait que c'est quand même un écrivain haut placé, disons.
Et qui a les moyens d'entretenir ce job particulier, celui du remplaçant. Celui du répondeur au téléphone.
C'est vrai que c'est particulier parce que, à la limite, tout ce qui le pollue au quotidien. Mais sa fille, aussi confier le soin à un étranger de répondre à son propre fils,
c'est délirant.
Ça fait pas de lui un personnage très sympathique au début.
Non. Et totalement, même d'une certaine manière, assez invraisemblable. Ouais. Qui ferait ça? Je me le demande. Mais néanmoins, c'est un fantasme qu'on peut avoir et qu'on comprend. Oui. Tous mes soucis, toute ma vie quotidienne, tous mes engagements, tous mes amours, je te les confie et dans ta voix.
Alors, il faut préciser qu'il est au début de sa carrière, cet imitateur que vous incarnez, Salif Cissé. Il a du talent, ça c'est indéniable. C'est d'ailleurs ce talent qui attire cet auteur à lui confier cette mission. Mission avec une sorte de bible, comme on dit dans le monde de la fiction, c'est-à-dire un carnet sur lequel tout est noté dans ses rapports avec ses amis, ses amours, sa famille, ses relations professionnelles, tout est inscrit. Mais il a peur dans un premier temps.
C'est assez. Il lui dit qu'en fait, on peut pas tromper les proches. On peut le faire sur, pour comme une blague à un moment et après reprendre sa vraie voix. Mais
je crois qu'il dit même, je vais me cramer, je vais me faire avoir.
Et puis il a peur pour sa réputation, il a peur un peu de tout, quoi, parce que c'est un peu inédit. Et puis il y a aussi le défi de l'artiste, quoi, de se dire mais si j'y arrive en vrai. Ça peut être incroyable pour moi.
Ouais.
C'est là qu'on voit qu'il fait pas
ça. C'est le job.
C'est le défi. Okay. Et je pense que c'est bien mêlé dans le scénario. C'est qu'il y a quand même un petit désir quand même de réussite, un désir de réussir le défi, quoi.
Et alors puis c'est plus excitant que d'être opérateur téléphonique. Enfin, on voit bien
c'est un job qui peut aider, mais là, pour les
assurances. Il travaille sur une plateforme pour les assurances pour les animaux.
Il donne les assurances aux animaux de compagnie, ouais.
Exactement.
Avec la voix de Columbo est exceptionnelle. Cette séquence est géniale. Moi, si on m'appelle pour me vendre quelque chose avec la voix de Columbo, je vais jusqu'au bout. J'écoute.
Surtout si t'as le même chien que Columbo, quand même.
C'est clair,
ça le spot. Il a ce don, il a cette inquiétude. Alors, c'est à la fois une comédie et un drame humain, parce que il y a un vrai problème dans les relations humaines entre les uns et les autres. Et d'ailleurs, les deux ne sont pas très clairs dans leur propre intimité, dans leur relation. Il y a une fuite site de l'auteur, qui d'ailleurs pourrait très bien aller dans une zone blanche où on capte pas, s'isoler dans une oui. ferme quelque part en France. Comment vous définiriez d'ailleurs ses rapports avec les autres, Salif Cissé, votre personnage? Il est pas forcément bien dans sa peau?
Ouais, je dirais ça. Non, je suis pas sûr, mais je pense qu'il est, il a un côté mystérieux. J'ai l'impression qu'il se met dans un truc où il a pas envie que les gens sachent vraiment qui il est. Je pense que ça l'aide pour incarner des personnages.
Il est célibataire.
Je pense qu'il a un endroit de sa vie. Je pense qu'on a connu quand on est artiste, c'est qu'on est un endroit de focus, quoi. Mm. De se dire bon, il faut que je réussisse, c'est ma tâche. Là, il faut que je perce entre guillemets.
Tout pour mon boulot et rien pour la vie privée.
Tout pour mon boulot et y a rien d'autre, quoi. Et tu rentres le soir et tu bouffes des nouilles chinoises et tout ça.
Et des danettes.
et puis il y a que des bocaux et
des
boîtes.
Des chocobons.
Le
régime alimentaire, il est top, ouais.
Oh, ouais, wow. Ouais. J'ai envie de dire que c'est pas le mien, mais j'ai participé
au décor. À la mise.
C'est important pour le personnage.
Comme on dit au théâtre. Ouais. Et Denis, votre personnage, lui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'amis, beaucoup de relations, peut-être trop d'amis. Est-ce une manière pour lui aussi de faire le tri?
Ah ben oui, en fait il veut se décharger. Alors il y a des échecs dans son existence, il y a une rupture très douloureuse avec son ancienne compagne pour raison d'alcoolisme. Il est alcoolique, il l'a été, il est un peu moins. Et en fait c'est pas tellement mettre sa vie en suspens, c'est que quelqu'un d'autre puisse arranger ses affaires. C'est ça qui est étrange. Interférer comme ça, y compris avec son ex-femme, son ancienne compagne, sa fille, son père.
Est-ce qu'il le souhaite, ça? Parce que on va pas tout dévoiler quand même du film, mais comme toutes les indications sont préparées sur une fiche, il le laisse improviser, encore une fois, en disant bah, débrouillez-vous, vous avez les informations de mes rapports avec mon père, de la manière dont je parle avec ma fille, de mon ex, de mon éditeur, même de grands propriétaires de théâtre ou dans tous les réseaux artistiques. Débrouillez-vous, improvisez. Est-ce qu'il veut vraiment que le personnage de Salif Cissé ait réponse à tous ces mots MAUX, et où est-ce qu'il a peur de ces improvisations?
Probablement, il n'est pas tout à fait conscient de ce qui peut arriver.
Voilà.
Et il ne s'y prendra pas comme ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé vraiment, il est un peu au bout du rouleau, tout simplement. Il a besoin de... C'est une façon de... Un ressourcement un peu étrange, mais il ne mesure pas toutes les conséquences.
Parce que Salif, votre personnage, va devenir comme un marionnettiste, finalement.
Bah oui, enfin, à partir du moment où on se rend compte qu'on a les mains... Qu'on est Dieu dans
c'est
la
ça,
vie
non
de quelqu'un.
C'est un peu ça.
Bah, il y a aussi un truc... Et c'est, il se fait prendre à son propre jeu, mais on va pas tout dévoiler non plus, mais il y a aussi un truc d'excitation, de se dire, mais enfin, je peux être cette personne-là pour cette personne-là.
Je peux aller au clash ou au contraire,
je peux réparer, ouais, je peux faire
c'est
ce que je veux.
C'est le Deus ex machina du théâtre,
bah,
c'est ça.
Oui, mais je pense que moi, il y a quelque chose qui m'a paru dans le personnage de Pierre, c'est qu'il y a un truc qui l'amuse quand même un petit peu, quand même. Il y a quelque chose qui se dit, mais bon, en même temps, ça m'amuse, mais j'ai envie quand même de voir les conséquences.
Mais c'est un gentil.
C'est un vrai gentil.
C'est-à-dire que ça l'amuse dans le sens où je suis curieux de voir ce que je peux faire, mais pas ça l'amuse dans le sens et si je mettais le feu à telle ou telle relation, parce que
ouais bien sûr, il y a pas de vice ou de perversité.
Au contraire. Moi je trouve il a un côté presque ange protecteur qui essaye d'arranger les choses.
C'est ça.
Sauf que quand on veut arranger les choses, on peut aggraver plutôt la situation que de l'arranger. Et ça donne toute une comédie, mais aussi de vrais rapports humains. Il y a Or Attica et Clara Brotteau qui jouent. Vos côtés, Clara jouant le rôle de votre fille et Or Attica, celle d'une nouvelle liaison potentielle à voir dans Le Répondeur. Ça sera le 4 juin. Voici Lisa Delmoitié.
Bravo.
Vous n'auriez pas du tout envisagé le film comme ça, Lisa?
Non, pourtant, je suis aussi en période d'écriture en ce moment.
Bon.
Donc je ressens, comme votre personnage de Nipodaïdès, le besoin de m'isoler de mes amis, de mes demandes pro. Mais j'avoue que moi, mon téléphone, ça sonne pas tant que ça, en fait. Vraiment, l'envie du monde extérieur d'interagir avec moi est absolument gérable. Hein. Vraiment, mes amis ne m'harcèlent pas. Ne me harcèlent pas.
Oui.
Pas d'amis qui s'appellent Marcel. Par rapport au fait que je suis née après la libération. Faut dire, moi, j'ai pas d'ex-femme à canaliser, ni de fille, ni d'éditeur. La personne qui m'appelle le plus, c'est Virginie, conseillère en énergie. Apparemment, j'ai droit à des aides de l'État. Mais je suis pas sûre, je l'ai jamais laissé aller jusqu'au bout. C'est l'angle mort de ma courtoisie télémarketing. Hein. Vraiment, j'essaie vraiment d'être poli avec tout le monde, mais si je décroche à une conseillère en énergie, je me transforme en une créature froide, cassante, méprisante. Je crois que dans la mythologie, on appelle ça une parisienne. À vérifier, je confonds toujours avec le Minotaure. Un des deux a un gros cul de taureau. Et l'autre était coincé dans un labyrinthe. Ou mais votre personnage à vous, Denis Podalydès, on le dérange sans cesse au téléphone. Résultat, on l'a dit, vous engage à épsisser pour l'imiter au téléphone. Moi, j'ai trouvé une autre solution pour que mes potes arrêtent de m'appeler pour sortir le soir. Je quitte toute leur soirée à 21h. Crois-moi qu'on t'invite une fois, mais pas deux. Sauf Marcel, parce que c'est aussi à cette heure-là qu'il se couche à son âge, que c'est devenu mon ami. En fait, moi, c'est ça mon système quand j'écris. Sans vraiment m'en rendre compte, je me lève de plus en plus tôt et je me couche de plus en plus tôt. Parce que c'est un rythme qui t'isole naturellement. Hein. Oui. Peu de gens interagissent avec toi à 5h du matin. Donc voilà, je n'ai plus d'amis. À part trois boulangers et une drag queen qui vient du taf. Franchement, c'est cool, on se bouffe des miches pendant qu'elle se démaquille. Grosse ambiance au lever du soleil. Et bien sûr, je comprends à quel point le téléphone peut être envahissant et c'est moins la faute des autres que la nôtre. Et c'est notre rapport compulsif à ce petit carré noir. En fait, dès que j'ai une angoisse, je scroll. Voilà, il y a un truc avec l'action du pouce qui apaise. Du coup, là, j'essaye de recommencer à le sucer. Voilà. Mais est-ce que sucer son pouce, c'est trompé? J'ai vraiment tout testé, moi, pour passer moins de temps sur mon téléphone. J'ai même téléchargé une application que tu relis à ton compte en banque et qui te prélève de l'argent si tu passes plus d'une heure sur ton écran.
Mais non, ouais, ça existe.
Oui, ça existe. C'est radical. Hein. Enfin, je suis toujours accro au téléphone, mais j'ai plus d'argent. Ça motive à écrire. Voilà. Surtout les lettres de motivation pour faire ce travail. Mais j'avoue que le coup de l'imitateur qui décroche, pour toi, j'y avais pas pensé. Quel drôle le métier imitateur. Je me dis qu'il doit avoir des troubles de la personnalité à force de se mettre dans la peau des autres comme ça toute la journée. Moi, j'ai toujours dit un imitateur, c'est juste un schizophrène qui a réussi à percer. Et un acteur porno, c'est un infomane qui s'est rentabilisé. Évidemment, là où c'est riche d'engager un imitateur pour t'aider à t'isoler, c'est que ça te force quand même à interagir avec quelqu'un et c'est au final la rencontre entre deux personnages qui intéresse le plus ici. Ça me fait me dire qu'il faut peut-être quand même que je sorte un peu de ma tanière. Alors je vous laisse. Je vais inviter une drag queen, trois boulangers et Marcel à petit déjeuner.
Prénom qui revient à la mode, Marcel.
Oui, c'est vrai que...
Ah bah, si tu vas dans les parcs, oui.
Tu vas dans les parcs.
Attends, c'est vrai que c'est...
Il y a un petit côté pervers, quand même. Va dans les parcs.
J'y vais accompagné.
Oui, ton bracelet.
Avec mon petit bracelet.
Ils sont, vos personnages dans Le Répondeur, Denis Podalydès et Salif Cissé, ils sont dépendants des autres. Mais alors déjà, accro, on l'a dit, au portable, accro à l'alcool. Aussi, il cherche à sortir de l'intox.
Oui.
Apporté par les deux, c'est ça, c'est vraiment de la drogue, l'un comme l'autre, le numérique comme l'alcool.
Oui. Essayer de retrouver une certaine fraîcheur pour écrire et pour parler de lui-même.
Pour vivre. Alors, le paradoxe, c'est qu'il veut raconter sa vie et être intime en employant pour une première fois.
Tout en la déléguant.
La première fois, exactement. Ouais. Tout en se débarrassant de cette vie, comme pour se nettoyer un peu.
Mais je trouve que c'est, d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal d'écrivains et d'écrivaines qui font ça, qui, pour mieux se raconter, s'isolent, sortent totalement du contexte concret, réel, quotidien, ou voire se projettent même dans des époques anciennes, et là, ils ont le sentiment d'être au plus près d'eux-mêmes.
C'est ce que vous vous racontez quand vous incarnez un personnage, c'est-à-dire vous avez besoin de rentrer un tout petit peu dans sa tête et de comprendre quelle est sa psychologie, pourquoi il agit comme ça ?
Oui, on fait ça.
Bah oui, on fait ça souvent, oui.
Et alors vous, justement, Salif, quel travail avez-vous fait sur votre personnage ? Il a besoin de se mettre à l'épreuve, de se donner un challenge pour réussir quelque chose. Le paradoxe, c'est qu'il a envie d'attirer du monde dans la salle et d'être connu. Or là, c'est une mission, au contraire, totalement dans l'ombre, où il doit rester masqué. Personne ne doit savoir quel est son talent.
Oui, je pense que après ça suppute un peu ce qui je pense que la mission qui se donne après avec le personnage de Denis, c'est ça vient prendre le dessus en fait sur sa carrière. Je pense qu'il y a c'est son nouveau défi quoi. C'est d'améliorer la vie de cet homme au mieux qu'il peut
et d'améliorer la sienne.
Et d'améliorer la sienne aussi, c'est vrai, mais j'ai l'impression enfin moi je me suis raconté que dans le film, ça prenait un peu une seconde place à un moment quoi. Et que les choses positives qui peuvent arriver pour sa carrière le surprennent le surprennent plus que lui qui va le chercher.
Il va un peu se taper l'incruste aussi dans sa vie, quoi.
Oui, non, mais
il rentre vraiment dans sa vie.
Autant aller au bout, quoi. Le mec a une mission, il va au bout. Non, mais je pense qu'on fait ça. Moi, j'avais l'impression pour ce personnage, c'était assez compliqué. C'était pas une histoire. Il fallait vraiment faire plusieurs strates. C'est-à-dire que il y a lui dans sa vie, il y a lui avec la voix de Pierre Chausen, il y a lui dans la vie de Pierre Chausen, mais c'est un avatar de lui-même.
Pierre Chausen étant le nom de l'auteur joué par Denis.
Et il y avait un peu plusieurs strates, un peu un truc. Bah, en fait, ça donne une comédie assez joyeuse, guillerette et tout ça. Mais nous,
petit côté triste aussi.
Oui,
pardon,
quand même.
C'est touchant. Ouais.
Quand même, c'est émouvant.
Et alors, évidemment, il y a cette espèce de truc bluffant, c'est-à-dire le travail que vous faites sur votre voix pour vous rapprocher le plus possible de celle de Denis Podalydès.
Ouais.
Donc, vous avez eu un casque avec la voix de Denis Podalydès sur la tête pendant combien d'heures pour réussir
parce que c'est fou, moi j'y ai pas cru au début. Je me suis dit, c'est la voix de Denis et vous faites une sorte de playback.
Oui.
C'est complètement dingue. Bah, hein.
En fait, au début.
On peut dire la vérité, il y a un peu des deux, non ?
En fait, c'est pas du playback parce que, à la base.
C'est de la post-synchro.
Et en fait, ce qui se passait, c'est que nous, on savait pas trop ce qu'on allait utiliser. Donc moi, mon truc, c'était de me dire, bon, si on utilise vraiment la voix que je fais sur le plateau, il faut que ce soit quand même très 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 proche de ce qu'il fait. Mais si on utilise quelque chose qui est entre, c'est-à-dire que Denis arrive avec sa voix en post-synchronisation, il faut qu'on croie qu'elle sort de ma bouche.
Oui.
Donc il y a tout un travail aussi de la voix, mais il y a aussi un travail physique. Petit, parce que la caméra grossit tout et prend complètement aussi. Mais il y a tout un travail physique de faire croire aux gens que ça, la voix sort vraiment de ma bouche.
D'autant que vous imitez beaucoup d'artistes, beaucoup de personnages. Ouais. Il y a beaucoup de chansons et beaucoup de musique présente dans ce film. Mais le travail, alors c'est toujours, moi j'aime bien les tours de magie. J'aime pas expliquer les tours de magie ni chercher à les comprendre, mais simplement la réalité, et c'est pour mettre en exergue votre talent et votre travail, c'est que vous avez vraiment travaillé l'imitation de Denis Podalydès, que vous allez modifier votre intonation pour vous rapprocher de la sienne, et comme une espèce de mixage à partir de la voix que vous faites, Denis en post-synchro a rajouté la sienne, les deux se sont mélangés, c'est un travail de mixage de post-synchro, mais il y a un vrai travail d'imitation quand même.
Ah oui, non, mais il y a un vrai, moi je suis passé à la moulinette de Michael Gregorio, il m'a laissé aucune chance.
Il sera là tout à l'heure, pour en parler.
Il m'a vraiment pris.
Ça a duré longtemps.
Ça a duré longtemps. On a fait deux mois de répétition.
Est-ce que vous avez été choisi parce que justement votre voix pouvait se rapprocher de Denis, ou parce que vous aviez des talents d'imitateur?
Il y a un peu des deux.
En plus de réalisateur, en plus d'acteur, en plus de scénariste.
Mais en tout cas, il y avait un peu des deux là pour ce rôle-là. C'est-à-dire que ma voix, il y a eu un test de voix. En fait, on a fait un test de jeu sur tout le reste.
Okay.
Et puis je suis revenu une fois uniquement pour voir si ma voix pouvait matcher avec celle de Denis, si je pouvais m'en rapprocher le plus possible. Mais oui, ça a été contingent, je sais pas comment on dit ça.
Une contrainte?
Ça a été déterminant en fait pour le choix. Mais il y a aussi, moi j'oublie à chaque fois de raconter ça, mais Fabienne Godet, la réalisatrice. Du répondeur, et ben elle était venue me voir jouer au théâtre. Je jouais une pièce qui s'appelait 1983, et moi je faisais un monologue de 20 minutes où je changeais de voix, où je prenais la voix de Charles Bronson avec un doublage des années 80 tout pété et tout. Et elle, je l'avais invitée un peu innocemment à cette pièce pour qu'elle me voie jouer.
Trop
et en fait, je me rends compte pendant que je joue qu'elle est dans la salle. Et que je suis en train de changer ma voix pendant 20 minutes devant elle, je me dis, mais c'est incroyable comment c'est parfait cette histoire. Ça va beaucoup me servir. Et je pense que ça a joué un petit peu aussi. Elle a pu voir vraiment.
Vos talents d'imitateur.
Oui.
Se rapprocher, ou en tout cas d'écoute, parce que est-ce que le talent d'imitateur, c'est pas d'abord savoir écouter l'autre et trouver sa musique?
Évidemment. Mais ça se rapproche beaucoup du talent, je veux dire en tout cas de la manière dont on travaille quand on est interprète au théâtre, en tout cas en tant qu'artiste interprète. Je pense qu'il y a quelque chose de. On a vraiment besoin de choper des choses. Moi, j'avoue que je prends vraiment des trucs de mes proches, beaucoup, pour les mettre dans mes personnages. Il y a quelque chose de l'observation qui est primordial, je pense.
Et il y a une phrase qui est dite dans le film, quand vous écoutez dans un premier temps Denis Podalydès, vous écoutez la voix aux limitations de Salif Cissé, vous dites non, ça n'a rien à voir, c'est foutu, c'est mort, c'est cramé. Et il dit une chose qui est totalement vraie, c'est qu'on ne connaît pas sa propre voix.
On s'entend pas,
On a beau être acteur, média, avoir des casques, se réécouter, écouter des enregistrements, on ne reconnaît pas sa voix. C'est ça qui est étonnant.
C'est
Moi, j'ai fait un travail qui est totalement invisible et inaudible, c'est que je me suis imité moi-même. Mais ça, personne ne s'en rend compte.
Mais c'est réussi. C'est réussi. Réussi. Et même là encore, là, j'étais bluffé. Ouais.
Franchement, non, trop fort.
C'est étonnant. Hein. Ouais.
Voilà. Le talent.
Cette démonstration.
Ça se rapproche beaucoup de la voix de votre père, mais.
Denis Podalydès de la Comédie Française, Salif Cissé sont nos invités jusqu'à 12h30. Dans le film, il y a également Or Attica, Clara Brotteau, Manon Clavel, Ismaël Sissavané, Harrison Arevalo et Serge Postigo. Et en effet, c'est réalisé, je ne l'ai pas assez précisé, pardon, par Fabienne Godet. Le tout, ce film sortant le 4 juin prochain, on en parle jusqu'à 12h30. Voici Amandine.
Salut loser, salut à tous, ça va. Écoutez, ça va, je suis très contente d'être arrivée à l'heure ce matin. Non, parce que la semaine dernière, après l'émission, j'ai voulu aller voir les RH. On m'avait dit porte F, bureau 307B. Je rappelle que le bâtiment de la maison de la radio fait 100 000 mètres carrés et que j'ai le sens de l'orientation d'un nouveau-né hérisson. Tellement que la dernière fois, j'étais chez moi, je me suis relevée pour aller faire pipi. La seule porte que j'ai trouvée, c'est celle du frigo. Et franchement, c'est vraiment pas pratique de s'essuyer avec un pot de moutarde. Bon, au final, je me suis perdue. J'ai jamais trouvé la porte F, donc ça fait une semaine que je erre dans le bâtiment de Radio France. Après, j'ai rencontré plein de gens sympas. Samedi soir, j'ai même fait une soirée avec les gars du Books Club sur France Q. On a fait un blind test littéraire spécial auteur du 19e mort d'une maladie vénérienne. Des bouts en train, ces bibliothécaires. En fait, je voulais demander une augmentation parce que là, mes parents s'achètent un camping-car et je voudrais bien mettre un car dedans pour les mettre bien. Vous savez, un peu comme les familles qui ont un cheval de course. Bon, sauf que là, j'aurais pas une patte, j'aurais une roue, quoi. Bon, après, roue ou pas, ils sont déjà fiers, mes parents. Ah bah, l'autre jour, ma mère, elle m'a dit « Je suis tellement contente que tu sois sur une radio de gauche. » Je lui ai dit « De quoi tu parles ? Je suis sur France Inter. » Le seul truc qui est à gauche à Inter, c'est la cafétéria quand tu sors des toilettes de la chaussure. Et mon père, en entendant ça, il a dit « De toute façon, la droite et la gauche, ça veut plus rien dire. Hein. » Ce qui est vraiment une phrase de mec de droite. C'est ouf de croire dur comme fer que t'as été élevé par un mec apolitique et rebelle. Un jour, t'arrives chez lui, t'allumes la télé, tu tombes sur CNews. Tu dis « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, il te dit « Non, c'est rien, c'est la télécommande qui est cassée. » Ce qui me frappe le plus en regardant mes parents vieillir, pardon, c'est l'obsession pour la sécurité qu'ils avaient pas du tout avant. Ouais. C'est maintenant, c'est « Est-ce que t'as bien fermé la porte ? T'as ton bip ? T'oublieras pas de fermer la porte. Hein. T'as bien caché les clés ? T'as fermé la porte du garage ?» Tu sais, tu sens qu'il y a une angoisse qui s'est développée, quoi. Ouais. Mon père, la dernière fois, je lui dis « Tu sais que t'es mis l'alarme ou pas ? Le jour où la mort viendra te chercher, ça changera rien, quoi. » Et là, sortie de route du camping-car, il m'a dit « La mort, non, mais les gitans du point du jour, peut-être. » Comme quoi, la télécommande est peut-être pas cassée. Hein. Attention, mon père n'est pas raciste. Hein. Mais bon, il joue au golf. Bah, à la retraite, tu dois trouver des hobbies pour t'occuper, quoi. T'en as qui se tournent vers la philatélie ou la fabrication de cache-pots en pilou-pilou. Moi, la nouvelle passion de mon père, c'est la circulation. Avec pour thématique principale, va-t-on avoir du monde sur la route ou pas ? T'arrives, la première question, c'est « ça va ?» Tu te dis « c'est cool, il s'intéresse à moi, tu commences, t'essayes un peu de te livrer, tu dis « écoute, pas de ouf en ce moment », et là il te coupe par un « pas trop de monde sur la route ». Ah, non, ça a été. Par contre, il y a des jours où je suis tellement seule que je parle à voix haute pour être sûre de pas oublier le son de ma voix, et j'ai un comportement tellement addictif que j'arrive à développer une dépendance pour des produits avec lesquels il est normalement impossible de développer une dépendance, genre le coleslaw. Je vous en mets pour 100 grammes, vous l'avez pas en intraveineuse plutôt? Et là il me répond, oui mais ça c'est comme d'habitude, alors que le tunnel de Fourvière on peut jamais trop savoir à l'avance. C'est-à-dire que mon père, pour lui, c'est pas possible d'être perdu dans la vie quand on a Waze, quoi. À chaque fois que quelqu'un doit aller quelque part, on a droit à un petit point info trafic. Vous devriez partir plus tôt ou beaucoup plus tard. Attention aux chassés croisés. C'est plus un daron, c'est bison futé avec des boules de pétanque, le bézard. Je suis sûr qu'au fond de lui, il rêve que je fasse des chroniques sur 107.7.
Ah oui.
Aussi, je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, je sens que mes parents sont très concernés par le mobilier urbain et tout ce qui est aménagement de l'espace et gestion des déchets. L'autre jour, on arrive chez Piou, ma mère, elle lâche un. C'est dégueulasse, cette ville. Et mon père, derrière, il répond, bah oui, c'est sûr, c'est une mairie communiste. Ils vont plus au musée, ils se font des points d'écho sur les ronds-points. Une petite sculpture semi-contemporaine en fer rouillé d'un berger et ses moutons, mon père, il met le frein à main au milieu du giratoire et il sort prendre des photos. Bon, comme il sait pas trop servir de son téléphone, une fois sur deux, il se filme en selfie en train de gueuler à ma mère. Ah, mais 2 minutes, c'est pour montrer à Jean-Louis. Et l'amour, quoi. L'amour qui a duré toute la vie comme ça. Mes parents, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble. Moi, wow. Je tiens pas 2 semaines, quoi. C'est simple, moi, j'ai plus des histoires, j'ai des rumeurs. Enfin, l'amour a bien regardé. Moi, je trouve que les vieux coupes de près, ça ressemble quand même fortement à deux syndromes de Stockholm en colocation. Et parfois, mon père, il parle et ma mère à côté, elle est juste là. Ma mère, elle fait de l'ASMR toxique, en fait. Et il paraît que normalement, tu vis beaucoup mieux la vieillesse, voire le deuil, non prématuré, bien entendu, de tes parents quand t'as des enfants, parce que ça permet à ton cerveau de mieux intégrer le cycle de la vie. Mmh. Bon, le souci, c'est que moi, j'ai pas d'enfants. Voilà. Juste une roue de camping-car. Mais pour ça, il faut que je retourne à la porte F. Merci de m'avoir accueilli.
Bravo.
Amandine sur scène le 17 juin à Morges, c'est en Suisse, et à partir du 7 octobre à Paris, à l'Européen.
La musique du film Le Répondeur, film réalisé par Fabienne Godet, la musique est très présente, puisqu'on parle beaucoup de ce téléphone portable. Téléphone portable qui a une sonnerie. C'est à gagner le Goncourt pour avoir...
C'est très inattendu, ouais.
C'est chic en sonnerie de portable. Alors j'ai l'impression que la blague, le sourire qu'engendre cette sonnerie répétitive du fric c'est chic sur son portable est venu d'un inconvénient. C'est-à-dire, initialement ça devait être une autre musique et Fabienne n'a pas eu les droits.
J'ai oublié ça.
Oui, je suis au courant. En fait c'était trop cher.
C'est ça, c'est les Bee Gees Staying Alive.
C'était Staying Alive et c'était beaucoup trop cher. Elle adore cette musique et surtout elle voulait une musique qui faisait que on l'aime tous un peu, c'est un peu un classique. Mais en même temps, à force de l'écouter, ça nous prend la tête, quoi. Elle voulait une musique comme ça. Et c'est vrai que Freak Out, ça marche, j'en peux plus.
Surtout qu'on imagine que votre personnage, Denis Podalides, l'a pas installé lui-même. C'est comme si
sa fille qui a dû lui mettre. Qu'on peut choisir sonnerie.
Et dans les imitations incarnées par Salif Cissé.
Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent.
Du Orelsan, du Christophe. Et puis il y a deux chansons qui sont extrêmement émouvantes et qui ont tout un sens particulier dans leur moment, en tout cas où elles sont chantées. Diego. Parce qu'il y a deux œuvres d'art, entre guillemets, la chanson d'un côté, Diego libre dans sa tête, et la toile pour laquelle vous allez poser avec cette posture à double visage, qui prend évidemment tout un sens avec le rapport que vous avez tous les deux. L'un veut être libre dans sa tête, l'autre a un masque à son visage.
Ouais, c'est très beau.
C'est dans le film.
C'est dans le film, ouais. Ça me reprend. Mais c'est totalement ça. Et je pense que ça prend tout son sens à ce moment-là du film. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de, on comprend Chosen à travers le personnage de Baptiste. Et à ce moment-là, on comprend vraiment Baptiste, en fait. Et sa volonté, cette façon-là qu'il a de, justement, il y a un moment dans cette scène-là où le personnage
quand il pose pour la peinture?
Quand il rencontre Elsa.
D'accord.
Et elle lui pose, elle lui dit, mais c'est marrant, qu'est-ce que tu fais, toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais ça t'intéresse vraiment? Oui. Et c'est ça qui lui répond.
C'est important. Ouais.
Et pour moi, ça résume Baptiste. Oui.
Et la posture et le physique aussi jouent énormément dans l'imitation. On va en parler avec Michael Gregorio dans quelques instants, qui est notre invité. Mais la musique dans vos vies, Denis Podalides, de la Comédie Française, vous écoutiez en 93-94. Pourquoi cette chanson, Tino Rossini?
Alors c'est une très très belle scène d'un film de Bertrand Tavernier que j'ai tourné, en fait un peu plus tard que ça, je dois le confesser, qui s'appelle Laissez passer. Il y a une séquence où Jacques Gamblin traverse la France à vélo, c'est un résistant le jour, c'est un résistant la nuit et un assistant de cinéma. Et cette séquence est absolument magique et c'est des plus belles séquences elle m'avait bouleversé. À partir de là, j'ai écouté cette version des Pêcheurs de Perles par Tino Rossi en boucle.
Ayant l'image du film parallèle.
Je vous assure, vous voyez vous pouvez penser ce que vous voulez de ce film, mais cette séquence, ce ne sont qu'une série de plans où Jacques Gamblin pédale dans la campagne française. Et ici, j'en ai encore des frissons. C'est magnifique sur ces Pêcheurs de Perles.
Et en 93-94, Denis Podalides, on vous retrouve à Chaillot, vous montez une pièce et vous dites que vous avez eu des aphasies, vous avez perdu des morceaux de dents.
Oui, c'est vrai.
De stress, jour, d'angoisse.
Oui, c'est une période où j'ai plongé. Et je me rappelle très bien qu'en répétition, je n'arrivais pratiquement plus à parler. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris un carambar.
Parce que vous aimez les blagues.
Erreur. Oh non.
C'est joli. Ok, d'accord.
Ah oui, bien.
Ah, je suis puni aujourd'hui.
Aujourd'hui, pardon.
Le mec a été au top.
Je me rappelle que je ne les lisais jamais. On me disait, mais attends, t'as pas lu la blague. Et ça me décourageait totalement. Et j'ai sorti le carambar de la bouche et j'ai trouvé deux dents dedans.
Oh. C'était les vôtres ou pas?
J'étais décalcifié.
Mon pauvre.
Au point de se dire après ça qu'on ne remet plus le couvert ou...
Parce comment que la crise. La...
Bah, je veux dire. D'arrêter.
Ah oui.
Non.
Arrêter quoi?
De mettre en scène, arrêter de. Si c'est pour se rendre malade à ce point-là.
Ben oui, je voulais arrêter tout. Et finalement, j'ai pris le chemin d'un psychanalyste et je bénis ce jour-là.
Pendant que vous écoutiez Tino Rossi en 93-94, Salif Cissé, écoutez. C'est la musique qu'il y avait à la maison, on va dire.
Bah, mieux qu'à la maison, peut-être la deuxième maison, c'est la musique qu'il y avait à la fête de l'humanité. Ma mère, elle allait tous les ans à la fête de l'Huma, je sais pas pourquoi, entre une maladie qui s'appelle être de gauche. Ouais. Et elle m'emmenait vraiment des petits, et j'ai cette musique, je l'ai jamais eue dans mon téléphone ou un iPod ou quoi que ce soit, mais je la connais par cœur, je l'aime beaucoup.
Qui est quand même la plus capitalistique de toutes les chansons, parce que c'était lancé par une marque de boissons, par une chaîne privée, ça a été mal. Le pognon.
Mais,
c'est quand même fou la dichotomie.
Comment on l'appelle cette musique?
Lambada.
Ah, bah, bien sûr.
Et oui, avec cette petite jupe jaune à volant comme ça.
Oui, discrète.
Oui,
oui,
sur la playa. Quand il se tenait comme ça.
Voilà, tout sûr.
Ces années-là, c'est votre naissance, Salif Cissé.
C'est ça, 93. Pas à Chaillot encore, moi.
Pas à Chaillot. Mais vous grandissez à La Courneuve, dans la cité des 4000.
Tout à fait.
Vous avez trois sœurs, vous êtes le seul garçon.
Et oui.
Est-ce que ça fait de vous un petit chouchou pour l'éternité?
Je pense qu'il doit y avoir quelque chose là. Est-ce que tout le monde me dit ça depuis vraiment très longtemps?
Ou l'inverse, ou un protecteur?
Ouais, justement, un protecteur malgré lui. L'enfant, le troisième, c'est lui le chef de famille. Bah, c'est comme ça dans les familles africaines pour la plupart. En tout cas, moi, non, j'ai pas été le chouchou. Non, ma mère était trop féministe pour élever un enfant roi. Il n'y a pas d'enfant roi, c'est l'enfant qui cure les toilettes comme tout le monde.
C'est la ville.
Et qui fait la vaisselle et qui fait tout le reste. Non, non. Mais très aimé.
2010-2011, Denis Podalydès, vous écoutiez.
À l'entrée du zoo.
Philippe Delerm.
C'est Salif qui.
Tu sais, pardon, Vincent Delerm.
C'est Salif qui imite Vincent Delerm.
C'est ça.
J'espère qu'il y aura des éléphants. Et ta mère, elle est au courant.
Alors, est-ce que Denis Podalydès devenait imitateur?
Et oui, vous incarnez ça, Nicolas Sarkozy dans La Conquête de Xavier Duringer. Là aussi, en adoptant, en l'observant, j'imagine énormément certains de ses gestes, sa gestuelle en général.
Gestes et la voix aussi.
Ouais, vous l'avez.
J'aurais dû prendre des cours là-bas, moi. J'ai pas regardé toute la filmo, purée.
Je vais vous dire, Nagui, je vais vous dire.
Mais c'est impressionnant.
Ouais.
Incroyable.
Est-ce que c'est dur de passer autant de temps avec un personnage, je dis pas Nicolas Clivant. Sarkozy, clivant, oui, ça c'est sûr, qui n'est pas forcément aligné avec ses valeurs individuelles peut-être?
Non, c'était passionnant. Passionnant, j'ai pris vraiment comme un personnage. Et j'ai une forme même de gratitude par rapport à lui, parce que c'est un rôle qui a suscité un plaisir énorme d'interprétation, chef de bande, avec une énergie colossale, capable de phrases qui lui semblaient écrites par un dialoguiste et à la Michel Audiard, et qui étaient des phrases, c'est quasiment et plein de verbatim, de phrases dites par lui-même. Donc c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, et qui était tellement à l'envers de moi,
c'est une grande satisfaction. Ces hommes politiques.
Alors lui, il se concevait comme peut-être pas tant acteur que artiste global qui montait sur scène, qui avait des sensations d'artiste. Exactement. Il pouvait se comparer à Johnny Hallyday ou à un acteur. Ça lui faisait pas du tout peur de se voir. C'est peut-être le premier président qui a assumé pleinement la dimension communicationnelle spectaculaire du job, comme on veut dire.
On est toujours dans ces années 2010-2011. Salut Cissé, vous écoutiez.
Oh,
Alors c'est devenu une application, mais avant ça voulait dire quoi de neuf.
Quoi de neuf.
C'est quoi ça?
C'est WhatsApp, c'est ASAP Rocky.
ASAP Rocky, ouais. C'est un rappeur de Harlem que j'aime beaucoup, qui avait sorti sa première mixtape à ce moment-là. Moi, j'étais à Londres, j'étais dans le car pour aller à Londres.
Donc vous compreniez, pardon, vous êtes bilingue, vous compreniez ce qu'il...
Je suis bilingue depuis petit, et j'aime beaucoup cet artiste, j'aime beaucoup les acteurs, j'aime beaucoup les rappeurs de New York, et en particulièrement lui.
Lapsus révélateur.
Ouais, les acteurs de New York. Mais lui, je l'ai rencontré, je l'ai vu, il y a pas longtemps, là, j'étais à Cannes, et il joue dans le dernier film de Spike Lee qui s'appelle Highest to Lowest, je crois. Et il était à deux rangs de moi, quoi. Et c'est fou parce que c'était le moment où j'étais en train de justement d'envoyer les musiques pour ça, et je le vois à deux rangs de moi avec Rihanna juste à côté de lui. C'est juste un rêve de gosse de juste voir ce gars, de le checker. J'ai pas réussi.
Et vous dites, sans faire de militantisme, vous dites que quand on est noir, on n'a pas forcément des acteurs à qui se référer, à qui admirer. N'importe quel enfant, garçon ou fille peut avoir des icônes représentant sa grand-mère, son grand-père, ses parents, s'identifier soi-même. C'est pas toujours le cas des enfants noirs.
Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que les enfants noirs ont plus de chance, il y a beaucoup plus d'acteurs et tout ça qui les représentent.
Mais vous, gamin?
Mais moi, gamin, il y avait très peu d'acteurs. Au Marcy, par exemple, n'avait pas fait Intouchable. Donc c'était beaucoup plus les Américains.
Oui. Et Denzel Washington.
Eddie Murphy. Ouais. Bon, du côté des Américains, on avait quoi faire.
Forest Whitaker. Moi, Salif me fait penser beaucoup à Forest Whitaker. La densité, la subtilité, la tendresse qui émane de lui.
Mais beaucoup plus beau.
Quel compliment.
C'est un bel acteur.
J'ai ouvert.
Merci, Denis. Mais voilà.
Et à cette époque-là, vous découvrez le théâtre.
Et à cette époque-là, je découvre le théâtre.
Comment ça se matérialise? Vous montez sur scène dans quel cadre?
Dans le cadre d'une option de théâtre, vers 17 ans, comme ça. Je savais pas trop, c'était une rupture amoureuse. Je sais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai l'impression que le monde s'arrête, alors que non, pas du tout. Et là, il y avait ces options à choisir. Je choisis le théâtre, j'y vais un peu comme ça. Et vraiment, j'adore ça. J'arrive plus à ne plus en faire. Ça me manque tout le temps. Et j'ai des sensations que j'ai jamais dans ma vie. Moi qui suis assez timide et assez réservé, à qui on a appris un peu à réfréner les émotions. Oui. Là, on me donnait un espace justement pour les vivre. Et ça m'a changé, ça m'a tout changé.
Il vient de nous rejoindre, Michael Gregorio. Bonjour et merci de venir à ce micro. Imitateur et coach, donc, pour aider Salif Cissé. Est-ce que c'est la première fois que vous donnez des cours d'imitation? Ou est-ce que vous avez déjà fait ça dans votre carrière?
Non, je pense que c'était la première fois. C'était une grande première.
Mais dites-le avec votre vraie voix, parce que là, c'est insupportable.
C'est tout le temps ma vraie voix, Nagui.
Est-ce que tout le monde peut recevoir des cours pour chercher à imiter, ou est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait un terrain favorable, qu'il y ait un don?
Il y a des prédispositions, c'est sûr, pour le faire comme je le fais, mais on est tous des imitateurs, on a l'accent de notre région, on apprend par imitation. On va imiter le professeur de musique,
Dans les langues étrangères,
on imite les musiques, etc., les influences. Donc je pense qu'on est tous des imitateurs, en fait.
Donc ça passe par, avant tout, le bain dans lequel on marine, c'est l'oreille avant tout qui fait...
Absolument, l'oreille, puis le cerveau qui va analyser tout ça, voilà.
Ouais, mais toutes les cordes vocales ne sont pas capables d'atteindre certaines tonalités, accents.
Non, après, on part avec ce qu'on a et puis on essaye de travailler, voilà.
Comment vous avez abordé le travail avec Salif Cissé?
C'était très sympa. Moi, au début, je savais pas trop qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, parce que je connaissais pas la voix de Salif, donc je savais pas. Mais très vite, j'ai senti qu'il avait ces prédispositions là. Enfin, il avait une vraie facilité. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il vient du théâtre, mais je trouve qu'il a l'habitude de travailler sa voix. Il était assez à l'aise avec le travail vocal, donc on a fait pas mal d'exercices. Et puis voilà, on a essayé de trouver notre manière de se débarrasser du travail pour pouvoir jouer. C'était ça qui nous intéressait plus que d'imiter.
Et ça commence par la posture. Racontez les premiers conseils qu'il vous a donnés pour travailler. Est-ce que on se tient pas de la même manière physiquement quand on limite Johnny, Michel Berger ou Denis Podalydès?
Oui, je pense qu'il y a une signature, enfin il y a quelque comme un code. À, de toute façon, la limitation, c'est de la croyance. Donc à partir du moment où les gens pensent avoir le message, se dire ah oui, c'est cette personne-là qui limite. Après, il y a juste à dérouler quoi. Mais oui, il y a un travail physique. Pour Denis, moi j'avoue que on s'est beaucoup concentré sur la façon de parler. Il y avait quelque chose de comment dire, il y avait une chose dans la, enfin, il y avait un truc dans la voix particulier chez Denis, c'est que t'appelais ça le vocal fry, toi et le vocal, voilà, tu vas le faire,
cette notion là,
ouais. Ce truc qui traîne un peu dans la voix, qui gratte un peu dans la voix,
c'est la friture, le vocal fry, une sorte de friture vocale, tout simplement.
Une sorte de friture, ouais.
Okay.
Friture,
j'ai l'air. Là, vous pourriez faire Denis Podalydès.
Moi, je ne sais pas imiter Denis Podalydès, mais c'est ce son-là. C'est
un truc de médecin, ça, d'ailleurs.
Mais c'est où les Valley Girls. On avait un exercice comme ça sur les Valley Girls de Californie. Donc, on s'amusait.
Les Valley Girls. Alors, on est très loin de... Kim Kardashian, Paris Hilton, qui parle un peu comme... I was going to the store. Et cette chose-là...
On est pas loin du gémissement, quand même.
Non, pas loin. Mais Denis ne gémit pas. Mais
non,
il a.
Non.
Il a...
Denis ne gémit pas.
Mais il a cette chose-là en commun.
Pas tout le temps. Je faisais toute l'interview.
C'est une clé. En fait, on l'entend tous, mais on ne sait pas l'analyser. On ne sait pas le dire.
Tous, d'ailleurs.
Mais en fait, mais Denis a ça très fort dans sa voix. Et quand il met sa voix, les gens. Enfin, c'est ce code-là dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Les gens le savent, mais inconsciemment.
À quel moment vous êtes dit, Michael, c'est bon, tu l'as, entre guillemets, tu peux y aller?
C'est quand j'ai vu les essais, parce que c'est un vrai travail d'équipe. Donc on a avec Fabienne Godet, la réalisatrice, elle a filmé Salif sur une scène et on a fait le montage. Et moi, je savais pas comment ça allait rendre. Pour moi, c'était le plus important, c'était qu'on puisse vraiment croire en tant que spectateur à que Salif arrive à se faire passer même auprès des plus proches.
D'autant que le boulot, oui, que ce soit crédible, que sa propre fille, son propre père, exactement, reconnaissent la voix de son papa ou de son enfant. Est-ce que le travail d'imitateur parlé est le même que celui d'imitateur chanté?
Il y a la contrainte de la musique dans le chant et la contrainte du rythme.
Est-ce que c'est plus facile lorsqu'on imite un chanteur ou une chanteuse? Parce que là, comme le dit Salif, on a le code immédiat. C'est-à-dire qu'on a la mélodie, on a les paroles, on peut avoir peut-être 2-3 accessoires pour vraiment dire est-ce que vous avez bien compris? Parce que la pire d'imitation, c'est quand on dit, dit qui on imite.
Ouais,
c'est
ça. Il y en a qui le font.
c'est terrible, c'est terrible.
Ça, c'est terrible, cette phrase-là. Donc ça aide, j'imagine, d'avoir une mélodie.
Après, pour pouvoir chanter. Ouais, c'est différent. Il y a le rythme aussi du parler. Il faut quand même respecter ce rythme-là. C'est clairement cousin, ouais, clairement.
Votre première imitation, quand vous étiez gamin, vous êtes rendu compte que vous étiez capable d'imiter quelqu'un de votre entourage ou une personnalité?
Il y a eu plusieurs trucs en même temps. Moi, j'étais fan de rock. Je pense que j'ai commencé à chanter, mais je me rendais pas compte. Mais voilà, c'était assez proche de Thom Yorke de Radiohead. Et puis après, mes sœurs, elles écoutaient les comédies musicales. Donc, ça a été Daniel Lavoie, Daniel Lévy.
Bonne vanne, Daniel Lavoie. Voilà. On est au top.
Première voix, Daniel Lavoie.
Voilà, très bien. Justement, l'Odyssée de la voix, c'est le spectacle. Oui. Formidable spectacle que vous portez. Vous expliquez. Il y a donc ce voyage dans ces deux cordes vocales, parce qu'on a beau entendre énormément de voix, il n'y a que deux cordes vocales. 16 et 17 février, ça sera aux Folies Bergères, et puis en tournée partout en France. Salif, ça vous a donné envie de travailler un peu plus imitation? D'un coup, vous avez dit pourquoi pas, ou c'est juste un coaching d'un film et on tourne la page?
Non, parce que j'ai toujours eu une sensibilité à ça, donc en réalité...
Est-ce qu'on se prend au jeu?
On peut se prendre au jeu. En tout cas, je pense que j'écoute plus les voix des gens de la même façon. Ça, c'est clair que ça m'a changé un peu ma perspective. Et je pense que je fais beaucoup plus attention. J'y étais sensible, mais je fais beaucoup plus attention aussi à aux voix des personnages que je pourrais imiter. Je pense que je pourrais jouer. Voilà.
Bienvenue dans le club.
Je vais te donner
ta carte. Hein.
Ouais, on y va alors. Mais voilà.
Il y a d'autres imitateurs hein, qui ont travaillé sur le film. Je les ai
Eclipse Force. Et Fabian Le Castel.
Merci. Alors Eclipse, ouais, c'était plus pour les rappeurs.
C'est ça.
On va dire. Et le travail et Fabian. Et puis le travail le plus particulier, ça a été sur Michel Berger. C'est vous qui faites la voix de Michel Berger.
Ah oui. Alors ce qui est drôle, c'est que je fais pas grand chose dans le film, j'ai pas fait beaucoup de cascades, voilà. J'ai juste voilà, je chante une chanson de Michel Berger, oui, et la chanson de jazz à la fin, et tout le reste c'est pas moi. Donc quand les gens donc viennent vous... voir le film et viennent me voir, ah bravo, et en plus, et
pour toutes les imitations.
Merci.
Il sera les 16 et 17 février 2026 aux Folies Bergères. C'est l'un des meilleurs, pour pas dire le meilleur, moi je suis toujours très impressionné par les spectacles de Michael Gregorio, par son talent, et je rajoute à cela une dose de gentillesse et de disponibilité. Merci
plaisir,
en tout cas d'être venu
plaisir
à ce micro. C'est très classe de votre part.
Un vendredi en plus.
On passe de la classe à Julien Santini. Pardon pour ce choc des cultures. Julien, que veux-tu nous raconter dans la prochaine demi-heure ?
Je parlerai de politique et de Roland Garros.
Très bien. Il y aura également Mélodie Fontaine tout à l'heure. Ça sera après les infos de midi.
France Inter, il est 12h05, c'est l'heure de la suite de la bande originale à Vounagui.
Merci Amélie Perrier, on vous retrouve tout l'après-midi pour l'information et à 13h ce sera la rédaction. La bande originale avec Leïla Kadouboudadi, Lisa Delmoitier, Mélodie Fontaine, Henri Lourdel, Olde de Laf, Julien Santini.
Bonjour.
Daniel Morin.
Coucou,
et
Santini.
Nos invités Salif Cissé, Denis Pondalides.
Bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Une comédie humaine, je ne sais pas comment la décrire ce film, parce qu'il est à la fois tendre, intelligent, émouvant, drôle. Il y a un petit côté comédie romantique aussi par moment, entre ces personnages interprétés par Or Attica, Clara Breteau pour les rôles féminins principaux, et Salif Cissé, Denis Podalides de la Comédie Française pour les rôles masculins principaux. C'est Fabienne Godet qui a réalisé ce film. Comment elle vous a présenté Le Répondeur ? Elle vous a dit c'est une comédie, c'est au contraire une tragédie d'un certain point de vue pour quelqu'un qui veut effacer sa vie ou en tout cas la confier à un autre.
J'ai l'impression qu'elle ne distinguait pas, elle ne cherchait pas à caractériser le genre.
Ouais, ouais.
Moi j'ai commencé par lire, j'ai reçu ce scénario, je l'ai lu. Oh là là, dis donc.
Et heureusement qu'il y a des textes écrits. Hein.
Salut, vous voulez pas le doubler pendant que
tu parles ? Allez, c'est parti. J'ai été embarqué tout de suite dans l'histoire. J'ai voulu savoir si page après page ce qui se passait. Ça m'arrive pas toujours de lire un scénario comme ça.
Alors là, comme un suspense.
Comme un suspense.
En se demandant comment la vie va être troublée, va être chamboulée. Oui. Par votre personnage, ça lui passe. C'est ce qui se passe en fait. Il devient, comme l'a dit tout à l'heure Leïla, Deus Ex Machina, c'est-à-dire que d'un coup, c'est lui qui a la main mise, une main comme ça venue de l'au-delà qui décide de tout.
C'est ça. Là, tout est possible. Là, il peut faire n'importe quoi, il peut aller n'importe où. Non, moi, je l'ai aidé. Moi, ça m'a un peu comme Denis. Genre, je l'ai lu et j'étais waouh. J'étais en mode même si je n'ai pas ce rôle, je veux voir ce film. J'ai envie de, j'ai envie de savoir comment ça se finit, quoi, parce que c'était assez.
Faut le dire jusqu'au bout.
Ah bah oui. Bah déjà, mais c'est vraiment une expérience que tu as envie de voir aussi, parce qu'il y a, la voix, quid de la voix. Oui. Parce que c'est un roman à la base, qui s'appelle Le Répondeur de Luc Blanvillain.
D'accord.
Mais eux, les lecteurs qui ont précédé les spectateurs, bah, eux, ils n'avaient pas l'histoire de la voix, donc pouvaient juste s'imaginer, mais pas le voir et le constater avec leurs oreilles.
Si je peux me permettre, ça m'a l'air beaucoup plus fort de l'entendre, de le voir, parce que les premières images où on voit votre travail de la voix, la manière dont vous répétez la même phrase pour vous rapprocher le plus possible de la musique de Denis Podalides, c'est assez bluffant. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que votre personnage, il est plutôt gentil, c'est-à-dire qu'il veut plutôt faire du bien, et c'est une maladresse involontaire quand il va y avoir des catastrophes.
Oui, il se laisse prendre, il se brûle les ailes en fait, c'est juste ça. Mais,
par gentillesse, pas par méchanceté.
Ouais, pas par méchanceté, je pense qu'il n'y a pas de volonté. Bah, la question de la méchanceté, elle est écartée très vite dans le film, c'est-à-dire il lui dit mais je pourrais faire ce que je veux de votre vie, en fait, vous me confiez toute votre vie, je pourrais divulguer les choses dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et tout ça, et il lui demande est-ce que vous feriez ça, il dit non, je le ferai pas. Mais ça, c'est déjà
Bien sûr que non.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, le reste, bon, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et là, c'est le film qui le dévoile.
Et le jeu, justement, dans lequel on pourrait imaginer que votre personnage de Hippolytes est pris dans les mailles du filet, il va s'en accommoder. Parce qu'il va peut-être subir deux, trois décisions ou deux, trois, deux, trois messages.
Mais au prorata, c'est...
Mais il aime bien.
À l'arrivée, il se sent tout à fait gagnant. Même si... faut pas divulguer l'histoire, non. Évidemment.
Surprise. Il se retrouve gagnant parce que, justement, il y a un côté ange protecteur. Il n'est pas méchant. Comme il veut quelque part son bien, il va lui apporter... des catastrophes, mais qui vont peut-être...
En fait, la chance, c'est de rencontrer ce personnage de Baptiste au-delà de l'imitateur. Il y a un ami qui apparaît.
Denis Podalydès et Salif Cissé portent donc ce répondeur, le film signé Fabienne Godet au cinéma le 4 juin prochain. Voici Julien Santini.
Je suis un peu traumatisé parce que la dernière fois j'ai mis cette chemise et Laïla et Nagui ne l'ont absolument pas validée. Vous avez vu, on parle imitation ce matin, du coup je tentais celle de Tanguy Pastureau. Et maintenant Tanguy Pastureau. La dernière fois je descends en bas de chez moi et là j'arrive. Je reviens, merci beaucoup.
Je rappelle qu'il ne faut pas annoncer les imitations. Ouais.
Je reviens à ma chemise. Vous m'avez fait des remarques, Laïla et Nagui, qui sont là encore. Pourtant c'était une marque équitable. Donc je me suis dit, Nagui, il va manger tout cru. Et au final, non, il m'a chié dans la main. Je m'aperçois, c'est pas la bonne expression en fait. Bref, je pensais qu'on me complimenterait et vous vous êtes moqué. Ouais, comme il le faisait à l'école. Pourquoi ? Parce que je dérange. On me dit qu'avec cette chemise, je fais très LR, très Bruno Retailleau. Et Retailleau, je pensais pas que t'assumerais Laïla. Retailleau, c'est celui qui a dit abat le voile, vive le sport et l'immigration n'est pas une chance. C'est sûr qu'il n'écoute pas la bande originale. Alors, j'ai écouté CNews, moi, par contre, la dernière fois, parce que j'ai pas que des qualités, et apparemment, il faut le savoir, le ticket qu'il voit en finale, il parle de ticket. Hein. Ticket, c'est à la loterie ou quoi ? Et c'est Retailleau contre Le Pen. Et comme je suis un génie, j'ai imaginé le débat. Sur le plan économique, on n'est pas mieux. Bon, on est d'accord. Mais sur le plan de la sécurité, alors là, on est d'accord. On est très d'accord. Voilà. J'ai fini les personnages. Bon, au final, ma théorie, c'est faites un seul ticket. Voilà, ce sera beaucoup plus pratique. Fin de mon analyse politique. Tremble, Tanguy Pastureau. Et maintenant. Merci. Et maintenant. Oh, la bonne ambiance. Denis Salif, vous nous rejoignez? Et maintenant, on parle, s'il vous plaît. Et maintenant, on parle tennis. Pourquoi ? Parce que c'est Roland-Garros, pardi ! Je suis allé à Roland-Garros pour les qualifications. Ouais, c'était la semaine dernière pour assister au parcours d'un copain qui s'appelle Tito Androguet. Il a 22 ans. Il est jeune. C'est un jeune copain. Malheureusement, pour son premier match, j'étais à France Inter avec vous et j'ai pas pu aller le voir en direct. Du coup, j'ai vu la fin au bar en bas de la maison de la radio et j'ai demandé à Lisa d'elle moitié de me rejoindre après sa chronique. Je l'ai juste prévenu que j'étais en train de voir un match de tennis, mais qu'il allait finir vite. Tout ce qui suit est vrai. Elle arrive, elle me voit sur mon téléphone et elle commence à partir en balançant dans le bar. Non, mais si c'est ça, c'est bon quoi. Alors, je ne savais pas que j'étais en couple avec Lisa Del Moitié. C'est quand j'ai vu les gens autour de nous en train de dire « Eh allez, encore un couple qui se dispute au sein de l'espace public !» que j'ai compris. Au deuxième tour, Tito Androguet est tombé sur un Allemand. Mais quand je dis tombé, il lui est littéralement tombé dessus hein, sur l'allemand. Et pour que l'allemand comprenne, Tito a dit « Ah, yeah, je vous ai fait mal !» C'est ma conception. Si, c'est ma conception assumée de l'accent allemand. Mais je vois vos réactions. Et autant parfois il y a des vannes, je dis ok. Autant celle-là, je la regrette. Le match fut épique. Cette fois, j'ai pu le voir en direct sur le Suzanne Lenglen parce que j'avais eu l'autorisation de Lisa qui m'a dit ce moment, on a quand même besoin de prendre un peu l'air. Vas-y. Et dis-toi, malheureusement, à la fin, il a perdu. Ouais, la faute à l'allemand. Putain, mais ceux-là, jusqu'au bout, ils vont nous emmener. Je fais bien sûr allusion au match perdu contre la France au premier tour de l'Euro 2008 et aussi un peu à la Seconde Guerre mondiale. Le tennis, j'observe beaucoup ce sport, j'ai une théorie. Les gens qui ont fait des révolutions dans le monde n'ont jamais fait de tennis. Ça n'est pas un sport de révolutionnaire. L'ATP, organisateur de tournois, a sanctionné avec des amendes énormes un Français parce qu'il casse une raquette. Corentin Moutet, pour ne pas le nommer, l'équipe le lendemain, titre « L'enfant terrible du tennis ». Il a cassé une raquette. Le mec fait des amortis. Ça vous terrorise, vous, un mec qui fait des amortis. À titre personnel, je survis. Ça, c'est côté joueur, côté public. Quand les gens veulent faire les malins dans les tribunes, ils font pa 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 pa. Et les autres répondent c'est pas un sport de révolutionnaire. Quand son entraîneur, à tuto en s'énervait, ça donnait putain, ce serait pas mal s'il pouvait passer les premières aujourd'hui. Ça va, quoi. Je veux dire, c'est trop aseptisé pour moi. J'ai grandi en Corse. Tout le monde est excité en permanence. Je suis déconnecté. Sur le Suzanne Lenglen, pour vous dire, j'ai senti un moment l'arbitre un peu agacé par une dame qui était debout au moment du service du joueur. L'arbitre a fait la moue. Je répète, l'arbitre a fait la moue. Je me rappelle, elle avait un bandana. Mais putain, si on était en Corse, c'est sûr qu'un spectateur lui aurait balancé « Oh, pirate des Caraïbes ! Tu te crois où, à la Fashion Week ?» J'ai réellement un jour entendu dans le stade de Bastia un spectateur sorti « Enterre-le debout !» À un moment, sur le Suzanne Lenglen, il y a eu des enfants qui s'agitaient un peu trop. Les pauvres, ils vivaient. Là, a dit « S'il vous plaît, reprenez vos places. S'il vous plaît. » En Corse, mais en Corse, on aurait eu droit. Excusez-moi, mais ces enfants, ils appartiennent à des gens. Ils ont été élevés par des chèvres. C'est possible de respecter les joueurs dans la bombe. Mais bon, il faut être tolérant, donc on va tolérer. Et puis j'ai plus le temps de m'énerver. C'est bientôt la deuxième semaine du tournoi qui arrive. Un seul ou deux Français qualifiés au moment où je vous parle. J'ai tellement hâte d'entendre les professionnels du journalisme sportif nous dire comment se fait-il que les Français ne soient pas 8 en seconde semaine. Ça veut dire demande à ta maman.
Bravo. Oh là là là. Julien Santini, comme tous les vendredis.
Il m'a épuisé. Alors, ouais. Je joue toutes les semaines au théâtre de la Gaîté Montparnasse. C'est très étrange. Il joue à 19h. Alors, c'est soit le jeudi, soit le samedi. Parfois, les deux en même temps. Allez comprendre. Et sinon, il sera demain au théâtre de l'Empire à Ajaccio.
Ça ne m'étonne pas qu'en bon Corse, il aime les sports à échange de balles. Le répondeur est au cinéma mercredi prochain, ça sera le 4 juin. Autre événement culturel, oui. Leïla.
On cherche un type d'arnaque dont vous serez bientôt peut-être victime, surtout vos proches en réalité. En Grande-Bretagne, un quart des Britanniques déclarent avoir déjà été la cible de ce type d'arnaque. C'est en lien avec le film.
C'est au portable.
Ah, des gens qui se font passer pour vous.
Quasiment, mais avec une petite manipulation.
Avec les voix, avec l'IA.
Avec l'IA, absolument. Wow. L'IA permet de cloner votre voix et des escrocs peuvent,
moi,
bien sûr.
Moi, je suis cloné. Je suis d'ailleurs, il y a un avocat, la SACD a pris mon cas en compte, parmi d'autres, hein, je ne suis pas le seul. Il y a une émission de philosophie qui diffuse des textes de philosophie avec ma voix. Et ça a été prouvé.
Que vous n'avez jamais enregistré.
Que je n'ai jamais enregistré. C'est ma cousine un jour qui m'appelle, mais écoute ça, et c'était vraiment moi. Sauf que, il y a un côté totalement monocorde, atone, triste.
Numérique,
oui. Numérique. Mais les finales, je pense que ma voix a été prélevée. Les finales, ce sont tout à fait
friture,
les miennes.
Alors,
c'est d'une tristesse. Et en fait, on a vu qu'il y a, c'est cliqué par, il y a des milliers d'auditeurs qui téléchargent. C'est très dur de faire l'enquête.
Curieux de connaître le résultat de la plainte, en tout cas, tenez-nous au courant.
Pour l'instant, ça avance.
Okay. Il suffirait apparemment d'à peine 3 secondes de notre voix pour fabriquer notre clone vocal. Alors nous, par exemple, à la radio, c'est facile, il y a tellement de replays que là, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais pour les particuliers, c'est facile aussi, il suffit que sur vos réseaux sociaux, vous ayez posté une vidéo où vous parlez, ne serait-ce que 3 à 5 secondes, donc c'est quand même assez fréquent. Eh bien, ces escrocs-là, avec l'IA, peuvent générer votre clone vocal. Et l'idée, c'est qu'ils appellent vos proches pour soutirer de l'argent, en disant voilà, je suis en difficulté, et vraiment une conversation. Alors là où on peut déceler éventuellement la supercherie, c'est qu'il y a un petit délai quand il faut générer une réponse. Les autorités britanniques recommandent par exemple d'avoir une sorte de question test, comme on le fait sur les mots de passe, avec vos proches, pour bien déterminer s'il s'agit de vous ou d'une escroquerie, puisque l'escroc ne pourra pas connaître la réponse à la question particulière.
Quel est ton animal préféré?
Exactement, voilà. Quel est le nom de ton ton premier animal
c'est
et quel est le nom de catcheuse de ta mère
C'est là qu'il les connaît.
Donc l'idée c'est aussi qu'ils peuvent générer des vocaux si vous ne l'avez pas directement en ligne en disant voilà là je suis coincé, je suis à la gare, j'ai besoin d'acheter un billet et en fait les gens se font massivement avoir pour ça.
Sûr.
Si vous deviez générer avec l'IA une voix, Salif, ce serait laquelle et pour en faire quoi?
C'est pour générer la voix de Kylian Mbappé. Okay. Pour qu'il fasse des excuses au Paris Saint-Germain.
Mais ça va pas.
Je suis désolé. D'avouer qu'il a fait, il a pas bien fait de partir tout de suite.
Ça, c'est possible.
Il aurait dû rester un an ou deux ans de plus.
Salif, elle a été rachetée par le Qatar.
On a le matériel pour faire la voix de Kylian. C'est bon, c'est facile.
Bah voilà, faut qu'il fasse ça. Je suis désolé. Des excuses. Des excuses.
Et vous, Denis, si vous deviez contrefaire la voix de quelqu'un.
La voix de mon père, si vous voulez, comme je l'ai fait, parce que je vous l'avais annoncé en début d'émission, je vous l'ai
fait. Génial, c'est trop blanc.
Comme ça, avec un petit fond d'accent pied noir.
Voici Mélodie Fontaine.
Ah. Bravo. Oh là là, c'est rien.
Allez.
Une étude de quelqu'un qui s'ennuyait, payé sûrement avec les impôts des auditeurs, et qui donc a fait une étude qu'on n'avait pas demandé et que personne n'a jugé utile de lui dire qu'il pouvait bosser sur un truc moins con ou alors de développer un minimum pour qu'on comprenne les enjeux bordel. Bon. Selon une étude, donc, les enfants passionnés par les dinosaures seraient plus intelligents.
Ouais. Ah.
Le sondage est partout sur mes réseaux sociaux. On me sonde alors que je n'ai rien demandé. Ça me laisse sondeuse. Le jeu de mots est libre de droit. Serre-toi mon hall. Le sondage est partout sur mes réseaux sociaux, mais en même temps, faut voir la tronche de mes réseaux. Pas étonnant que ce genre de truc déboule sur Insta entre un selfie de Pierre Ninet sous un âne et une pub pour un jet de toilette qui te pulse cucu. Les comptes que je suis, c'est la foire aux monstres. C'est un bordel. C'est une primaire de la droite à 20h15 après deux bolets de cidre. C'est indécent. Un zoo humain, mais t'as pas envie de payer l'entrée. Si mes réseaux c'était une télé, on serait moins proche d'apostrophe que des Marseillais en Thaïlande. Si mes réseaux étaient une télé, ça ressemblerait à une émission sous-titrée en coréen présentée par un raton laveur. Patrick Sébastien interviendrait pour une chronique illustrée sur l'hélicopénis. Il y aurait 2-3 vidéos de chute de chat avant que Pascal Pro Blackface fasse une reco couscous végétarien. Une poubelle de l'âme, le bazar. Oh, mince, j'ai quand même un peu envie de le voir, ce programme. Allez, je vous propose à M6. Ça me trotte dans la tête comme des poules le lendemain de la rentrée des classes. Les enfants passionnés de dinosaures seraient plus intelligents, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que les enfants qui sont pas passionnés de lézards sont idiots? Fallait encore qu'on les jauge, les pauvres gosses, qu'on les juge, qu'on les évalue, qu'on les compare. Comme dirait Daniel à Nagui à la pause pipi de midi, lâchons nos petits bouts, on aura bien le temps de les comparer quand ils seront grands.
Ça va pas, non.
Vous faites ça?
C'est gênant.
J'avais dit de fermer la porte.
Qui a eu cette idée folle un jour de conduire une étude qui hiérarchise l'intelligence des gamins? Il semblerait, notez le conditionnel, que le simple fait de s'intéresser juste à quelque chose, en fait, favoriserait la concentration. Bah, si c'est que ça, le gosse pourrait aussi se passionner pour les betteraves à sucre à mon cul et Nancy, que ça aurait le même effet. Je suis pas une génisse, mais je pense, non? Et puis, de manière générale, ça sert à quoi d'être plus smart que les autres? J'ai l'impression que l'intelligence, c'est pas un gage de qualité. Hein. Quand tu vois la tronche du monde, tu te dis que c'est un bras inutile d'avoir de la jugeote. Faut juste avoir une doudoune sans manche bleue et détester l'autre. Hein. L'intelligence, c'est comme l'empathie. C'est en option et ça te ralentit. Moi, j'aime pas les dinos. Ça appartient au passé, je préfère les poules. On en reparlera.
Oui, c'est vrai.
Non mais, c'est pas fut-fut, une poule, c'est un petit cerveau, mais les dinos aussi, proportionnellement. Le seul truc que ça fait moins rêver, un film catastrophe où les dinos seraient remplacés par des poules.
Ouais.
T'es à bord d'une Jeep, tu traverses un clos bordé de troulala qui lâche des œufs catégorie 3. Oh non, quelle horreur, Jurassic Pool. Le pitch du film, un milliardaire construit un parc rempli de gallinacées, ça part en couille. Bon, c'est pas Spielberg, on dirait plutôt le dernier achat média de Bolloré. Bon, je sais plus où j'en suis. Ce que je voulais dire, c'est la photo dino, ça m'a déconcentré. Bon voilà, je refuse de vivre dans un monde où le tyranno est Rex, je préfère vivre dans celui où tous les enfants sont rois.
Ouais.
Bravo. Mélodie sur scène à Chambéry le 6 juin, à Biarritz les 11 et 12 juin et à Paris au Théâtre de l'Œuvre le 18 juin.
Le 4 juin prochain, donc sortie du Répondeur, mercredi prochain. Quels sont vos projets, Salif Cissé? On l'a précisé, vous êtes réalisateur, auteur, scénariste et acteur.
Bah, comme tous les aspirants réalisateurs de Paris, espérer faire un premier long un jour, pas trop loin. J'ai fait une interview avec une fille, je le confiais en off, j'apprends qu'il n'y a pas de off, je débute moi.
Ah oui.
Et je lui disais, bah, j'espère en faire un à 35 ans parce que là, j'en ai 32 et maintenant je suis sous pression. Et c'est le truc qui était.
C'est
en
le titre.
Gros.
Oh non.
Du coup, il faut vraiment le faire, ce long métrage.
J'ai bien fait de ne pas le répéter en plus, comme
bah
ça,
non.
Ça passe pas. Bah
non,
c'est je, fait, c'est cramé.
Je suis pas si intelligent. Non, mais voilà, au moins, voilà, continuer à écrire, me faire plaisir et continuer et espérer pouvoir faire comme Denis, c'est-à-dire des pièces de théâtre et du cinéma en même temps, ça j'aimerais bien. Et il y a la sortie d'un film le 8 octobre qui s'appelle Météor qu'on vient de présenter à Cannes.
Super.
Dans la section Un certain regard. On n'a rien gagné, mais on était content, on a bien mangé.
Il y a Love Me Tender aussi.
Il y a Love Me Tender aussi qui sort, je pense. Ouais, c'est le livre adapté de Constance Debray.
Ouais.
Justement, à propos de livres, je rappelle que vous avez publié, Denis Podalydès, L'ami de la famille, souvenir de Pierre Bourdieu. C'était le 6 février dernier,
c'est
vous avez
ça.
Sorti ça aux éditions Julliard. Que vous êtes depuis ce mercredi et ce jusqu'au 21 juillet. Dans Écube, pas Écube, de et mise en scène par Thiago Rodriguez. C'est une collaboration entre la troupe du Français et Avignon.
Oui, c'est ça. Ça a été créé au Festival d'Avignon l'an dernier.
Et dans parmi les projets, vous allez reprendre Maigret.
Alors j'ai tourné.
Ah, c'est fait.
C'est
d'accord.
Fait.
Ok,
c'était tourné.
On verra
un film
quand,
de Pascal Bonitzer. Quand je ne sais pas exactement, mais je dois faire la synchro dans quelques temps. Donc,
ok.
Voilà.
Et Rembrandt également fait partie des interprétations que vous allez faire.
Oui, c'est un
Pierre Scheler.
Oui, qui devrait sortir. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait celui-là.
Avec Romain Duris et
c'est ça.
Camille Cotin.
Et mon frère aussi qui joue dedans. Mon
parfait.
Frère Bruno.
Parfait. Et quant à votre avenir à la Comédie Française, comment il s'annonce?
Alors, l'avenir à la rentrée, une pièce de Goldoni qui sera créée le 14 novembre, qui s'appelle L'école de danse, une pièce merveilleuse. Ensuite, je joue dans Hamlet que montera Ivo Van Hove, ce sera à l'Odéon. Puis ensuite, je mettrai en scène moi-même Le Cid de Corneille au théâtre de la Porte Saint-Martin. Puis je reprendrai un rôle dans Le Malade Imaginaire qui se jouera à la Porte Saint-Martin en fin de saison. Et là, immédiatement, j'ai monté l'opéra Faust de Gounod qui s'est joué à l'Opéra de Lille et qui se reprend à l'Opéra Comique. Le 20 juin, et je commence.
Bah merci,
excusez-moi.
Merci d'avoir trouvé le temps de venir.
Non, mais...
Deux, trois
trucs. Je sais pas
non,
comment
je vais
il fait,
jouer moi. Le rôle de Mitterrand dans une série commencer, qui sera la semaine prochaine, on commence à tourner. Je joue le rôle du vieux Mitterrand. Le jeune Mitterrand étant joué par Baptiste Carion-Weiss.
Très bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà. Désolé pour Salif Cissé qui, la semaine dernière, était à Cannes avec Rihanna, Bernard-Henri Lévy, Spike Lee, qui ce matin s'est retrouvé à côté de Isabelle Moitié, un petit bordel, Julien Santini. Un casting très différent, c'est une autre proposition. D'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle Un désastre. Alors, ce week-end est tellement attendu maintenant. Désolé pour nos invités, Salif Cissé pour sa première venue, Denis Podalydès, figure exigeante du théâtre francophone libre, qui se sont retrouvés ce matin entre une imitation du beurre qui fond, une chanson massacrée par un viking du guitariste et la blague 1983, c'est le préquel de 1983. Il est temps qu'il arrive ce week-end. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui ont noté que ce matin, la boucle était bouclée avec une émission d'escrocs qui fait la promo d'un film d'escroc, dans lequel Salif Cissé fait semblant d'imiter Denis Podalydès. À Denis Podalydès, on l'a entendu, qui n'arrive même plus à parler français. Même Dalida Boudadi, c'était pas elle qui parlait, elle était doublée par Amandine Chantal Garou. Putain, il arrive ce week-end.
Oui, il arrive ce week-end. Merci beaucoup, Salif Cissé. Merci, Denis Podalydès. C'est votre camarade de jeu, Horatica, qui sera notre invité lundi aux côtés de Clovis Cornillac.
Magnifique.
Passez un bon week-end.
Ah.